Oui, puis je pense que les verres d'eau ont tous commencé. Ils sont tous. Je sais pas. C'est... Si jamais je m'étouffe. C'est pas, t'es correct? On est correct, celui-là? OK, c'est bon. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue. Eh bien, on aimerait. J'aimerais tout simplement commencer en vous donnant quelques nouvelles. On a besoin de prier pour quelques personnes de la famille qui passent par un temps difficile. C'est physiquement que ça va pas bien. La maman de Louis, notre caméraman, qui était là tantôt, en tout cas, il doit être en arrière, oui. La maman de Louis ne va pas bien. Il est rentré d'urgence à l'hôpital à Montréal. Puis, problème cardiaque. Donc, elle est dans les soins intensifs. Alors, prions pour elle et la famille. Boniface, qui était ici à la première heure, qui, vous avez vu Boniface qui a glissé l'autre jour puis est rentré dans le piano. Et, bon, il y a eu une commotion cérébrale, finalement. De ça, donc il a besoin de nos prières. Roger Bacon, le papa de Marc, ici, qui va commencer à subir des traitements contre le cancer. Marc me racontait qu'il y a à peine un an, les traitements coûtaient 12 000 $ par mois. Puis là, heureusement, par la grâce de Dieu, ça va lui coûter juste, si j'ai bien compris, 6 $ par mois. Incroyable, hein? 6 $ par mois. C'est ça, Marc? C'est quelque chose de même, là? Mais priez pour lui, parce qu'il va commencer, là, hein? Il n'y a pas, c'est bientôt, là. Quelques jours, des traitements. Et ce matin, on a appris en plein milieu du service, ce matin, le frère de Jean-Louis Larabie est décédé, Claude, c'est ça? Donc, priez pour la famille Larabie. Alors, si vous voulez bien, on va simplement se courber maintenant pour prier. Eh bien, Seigneur notre Dieu, tout d'abord, on veut te remercier qu'on puisse se tourner vers toi dans ces moments si fragiles où on se sent vulnérable. Et il y en a d'autres en l'Assemblée qui passent par des temps de maladie. Ils ont besoin de ton aide. On te prie pour la famille des Larabie en ce moment qui passe à travers ce deuil. On te prie pour M. Bacon et la mère de Louis et Boniface et d'autres dans l'Assemblée qui ont besoin de ton soutien, de ta force. On te prie que tu sois avec les médecins au cours des traitements, que tu puisses mettre ta bonne main sur chacune de ces personnes, Seigneur. Et on te prie pour nous ce matin alors qu'on ouvre les Écritures saintes. Tu puisses parler à nos cœurs et on veut te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, vous êtes au courant qu'on a commencé une série il y a quelque temps sur le fruit de l'esprit. Et on est en train finalement de décomposer chaque élément du fruit de l'esprit. Et on est en train de regarder toutes ces qualités que le Saint-Esprit, que Dieu veut produire en chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, le fruit de l'esprit qui contient quelques éléments, comme l'amour, la joie, la patience, la douceur, toutes ces belles qualités, c'est Dieu qui veut produire en nous ces qualités-là. Et toutes ces qualités-là, dans le fond, c'est les aspects du caractère de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus veut faire. Le Seigneur veut produire, le Saint-Esprit veut produire en nous, tranquillement nous modifier, nous changer, pour qu'on devienne de plus en plus comme Jésus. Et on va voir une de ces qualités ce matin. On continue dans notre série sur le fruit de l'Esprit. Et ça n'a pas l'air de rien, ça a l'air, tu vas dire ça, on va parler de la douceur ce matin. Puis la douceur, tu sais, il y a des gens qui ont ça naturel, sont naturellement douces. Et bon sang, c'est merveilleux. Hein? On aime tous parler à une personne douce. Mais quand ça vient à notre tour, par exemple, là, on commence à être nerveux parce qu'on se dit, et j'entends ça, je dis, mon ami, si je suis trop doux à mon emploi, puis ça, je me défends pas trop, puis ça, ils vont me piler dessus, on va abuser de moi, on va me manipuler. Et là, on a cette notion que la douceur, c'est de ne pas avoir de colonne, c'est de manquer de force. On voit ça même comme un défaut par moment. Et c'est intéressant parce qu'entre les deux services, j'ai entendu trois personnes qui me parlaient, les frères qui me parlaient comment c'était vraiment une question difficile, la douceur dans leur vie avec eux autres. Et moi, je peux vraiment dire c'est la même chose bien pendant bien des années. La douceur, c'était pas l'une de mes plus grandes qualités. Alors, il y en a d'autres, c'est super, ils ont ça naturel, mais si vous êtes comme moi, ça, c'est vraiment, le Seigneur travaille fort dans ma vie pour ça. Mais c'est ce que le Seigneur veut produire en chacun d'entre nous. Il veut produire la douceur. Et on a cette notion-là, cette impression-là, que la douceur égale une faiblesse. Mais comme on va voir dans les Écritures saintes, la douceur telle qu'elle est définie dans la Bible, c'est tout à fait le contraire. C'est même une force. c'est une volonté forte. C'est la force, et on va voir le mot dans l'original pour douceur qui est employé dans les Écritures. C'est dans le fond, c'est un mot, mais qui est composé, qui a deux mots greffés ensemble. Et c'est vraiment l'idée de force, de caractère. Mais la différence, c'est qu'elle est contrôlée. C'est un peu comme un cheval. La manière on s'en servait, les Grecs s'en servaient à l'époque pour ça, l'exemple qu'ils donnaient pour décrire la douceur. C'est un cheval puissant qui est dompté. Donc, dans le fond, c'est la puissance, c'est la force, mais qui est sous contrôle. Et c'est ce qu'on veut regarder. D'ailleurs, on va tourner ensemble dans un passage dans Galates, chapitre 5, si vous voulez bien. Et on va commencer la lecture au verset 19. C'est un passage qu'on lit depuis le début de notre série, ici et là, à travers les messages. Mais je vous invite à y retourner. Chapitre 5, verset 19, Galates. Voici ce que ça dit. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai dit déjà, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Charles Swindoll décrit la douceur comme ceci. Il dit, « Dans notre individualisme féroce et vorace, nous pensons que la douceur est une faiblesse. Être doux, c'est manquer de colonne. Mais c'est tout le contraire, dit-il. La douceur signifie avoir des qualités enviables, comme le pouvoir de se maîtriser. C'est rester calme, malgré une atmosphère tendue, le pouvoir d'apaiser celui qui est en colère, c'est avoir le tact et la grâce d'aider les autres à garder leur respect de soi et leur dignité. Est-ce que c'est pas quelque chose, une vertu qu'on se souhaite tous? Et c'est ce que le Saint-Esprit veut produire en chacun d'entre nous, cette belle qualité de la douceur. Le Saint-Esprit veut produire en nous le caractère de Jésus-Christ, et l'une de ses qualités, certainement la douceur. On le voit d'ailleurs lorsqu'on regarde Jésus au cours de son ministère, les diverses rencontres qu'il a eues avec certaines personnes, où sa douceur ressort tellement fort. On va regarder deux situations ce matin, où Jésus fait la rencontre d'une personne, et comment sa douceur, ça ressort tellement fort, et c'est tout à sa gloire. La première rencontre, c'est avec la Samaritaine. Un jour, Jésus passe par Samarie, il a soif, alors que ses disciples sont partis, je sais pas où ils sont partis au dépanneur. Puis Jésus est tout seul, il est fatigué, il exerce son ministère. Et là, il va s'asseoir sur le puits, un puits Jacob. Et il s'assoit là, il est seul, et tout d'un coup, une femme arrive, et on apprend que c'est une femme samaritaine. Elle vient pour prendre de l'eau. Puis voilà que Jésus va lui demander de lui verser un verre d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs n'avaient pas vraiment de relation avec les Samaritains. Il y avait beaucoup d'animosité, d'ailleurs, entre les peuples, entre ces deux peuples-là. C'était le royaume du Nord, le royaume du Sud, et à travers les années, il y a eu beaucoup de conflits, d'amertume qui est encore là, et d'année en année, de génération en génération, et c'est encore là. Laissez-moi vous lire un verset, d'ailleurs, verset 9, parce que la Samaritaine est même surprise que Jésus va lui demander à boire. Et ça dit ceci, dans Jean chapitre 4, verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Alors, les juifs purs et durs imposaient vraiment même des lois très strictes à l'égard des relations avec les samaritains. Ils refusaient, par exemple, de manger. Les purs et durs, il y en avait qui le faisaient, mais les purs et durs, les puristes, refusait de manger des aliments qui étaient manipulés par des Samaritains. Il y avait beaucoup d'animosité. D'ailleurs, une prière que vous pouviez entendre par les Juifs, c'est ceci. Les Juifs faisaient cette prière à l'époque du Nouveau Testament. Il dit, « Seigneur, ne te souviens pas des Samaritains lors de la résurrection. » Tu vois, hein, ça dégage l'attitude qu'on avait à l'endroit des Samaritains. Il y avait cette animosité-là. Et il y avait plusieurs raisons pour ça. On croyait juste aux 5 premiers livres de la Bible. On avait construit un temple bien des années avant dans le Nord qui était détruit à ce point-ci. Mais quand même, on n'adorait pas de la même manière. On lisait pas les mêmes choses. Alors, il y avait plusieurs autres raisons, comme politique et tout ça. Et si bien que quand on arrive au Nouveau Testament, il y avait cette animosité-là qui existait. D'où la surprise de la Samaritaine lorsque Jésus lui adresse la parole, mais surtout lorsque Jésus lui demande, dans le fond, un verre d'eau et de partager les ustensiles avec elle. Et vous allez voir pourquoi. Donc, la nationalité de la femme aurait dû empêcher Jésus de lui adresser la parole, mais non seulement ça, c'est une femme samaritaine, en plus. Parce qu'il faut comprendre qu'à ce point-ci, pour les gens de la société, Jésus est un rabbin. Les gens ne le reconnaissent pas encore comme Messie et ne le reconnaîtront pas, sauf une petite partie. Mais au moins, une chose était certaine, c'est qu'on reconnaissait Jésus comme un enseignant, comme un rabbin. D'ailleurs, les gens qui vont le côtoyer, les passages qu'on va voir, l'appellent le rabbi, le rabbin. Et les rabbins avaient étaient assez stricts à l'endroit de partager les ustensiles. Tu ne le faisais pas avec les Samaritains. Surtout les rabbins. Les Juifs, quelques Juifs le faisaient, mais les rabbins. Mais premièrement, c'était une femme. Les rabbins stricts ne parlaient pas aux femmes. Ils n'adressaient même pas la parole aux femmes. Ils ne les saluaient même pas. D'ailleurs, c'est les pharisiens. Il y a certains pharisiens qui étaient même... Les pharisiens, c'était les rabbins, dans le fond. Les pharisiens... Il y a même un groupe de pharisiens, les purs et durs, on les appelait les pharisiens blessés et saignants. Parce que chaque fois qu'ils croisaient une femme, ils se bouchaient les yeux, même pour pas les regarder, puis ils rentraient dans les murs d'une maison, tombaient dans le trou, puis ils étaient tous blessés du sang, puis on les appelait de même. On les appelait les pharisiens blessés puis saignants. Parce que tu parlais pas une femme, on s'attendait, un rabbin parlait pas une femme. D'ailleurs, dans la communauté juive à Montréal, tu donnes pas une poignée de main à une femme. Ça, tu vas te faire reprendre. Là. Ça existe encore aujourd'hui, ça. Donc, tu avais cette notion-là. Premièrement, c'est une femme. Et non seulement ça, c'est une femme samaritaine. Et pour les Juifs, purs et durs, les femmes samaritaines étaient classées, considérées comme étant impures cérémoniellement. Tu pouvais pas partager les ustensiles avec eux parce que tu devenais impur. Alors, imaginez... on apprend ça de la littérature juive, qui sera mis par écrit quelques années plus tard, mais qui circulait verbalement, oralement dans le temps de Jésus. Mais vois-tu, l'Évangile va traverser ces barrières-là. Jésus passe par-dessus la réputation de cette femme, et il va la rejoindre parce qu'il sait qu'elle a des besoins, elle a un besoin dans son cœur. Et non seulement ça, on apprend que c'est une femme qui cohabite avec un homme. On apprend plus loin qu'elle a eu 5 maris, donc elle est avec un 6e homme en ce moment. Alors, vous pouvez vous imaginer les blessures qui sont là, parce que cette femme qui aurait aimé bâtir un foyer avec des enfants puis être bien heureuse le restant de sa vie, on voit qu'elle a eu beaucoup de déceptions et blessures dans ses relations amoureuses. 5 fois délaissée. Donc, beaucoup de blessures ici. Elle a eu beaucoup de souffrances. Elle a soif, évidemment, dans son cœur, il y a une soif qui est là, qui n'a pas été étanchée par ses relations amoureuses. Verset 10 dit ceci, Jean 4, verset 10, Jésus lui répondit. Alors, parce qu'elle vient de dire, comment ça se fait que toi, tu es un juif, tu m'adresses la parole, tu me demandes à boire et tout ça. Alors, Jésus répond, il dit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, si tu savais seulement qui j'étais. Parce que dans le fond, Jésus, sans lui dire, mais il va le dire, oui, il dit, c'est vraiment moi qui peux étancher cette soif que tu as dans ton cœur, qui est là, ce vide qui est dans ton cœur, que tu as essayé de combler 6 fois avec une relation avec des hommes, mais c'est pas ça que vraiment que ton âme avait besoin. Ton âme, ton cœur a une soif que seul le Seigneur lui-même, Jésus, peut étancher. Et c'est ça le message qu'il est en train de lui donner. Alors Jésus lui dit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et c'est un don, c'est un cadeau, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais dans la réponse de la Samaritaine est vraiment intéressante. Il y a l'ironie dans ça. Il y a vraiment un peu de moquerie. Il me semble que je la vois, je sais pas, je me rappelle pas comment on l'a dépeinte dans les films, mais moi je l'imagine ici avec un petit sourire en coin par la réponse qu'elle va donner. Elle est un petit peu moqueuse ici, là. Verset 11 dit ceci, « Seigneur, lui dit la femme, Seigneur, qui pas Seigneur Dieu, mais Seigneur juste comme une marque de respect, dans ce sens-là, a dit Seigneur, un peu comme Monsieur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, effectivement, 150 pieds, ce puits-là. Où auras-tu cette eau vive? T'as pas d'objet, t'as pas d'ustensile, t'as pas de pelle, t'as rien. Puis, regardez bien, elle va même aller un peu plus loin, et là, c'est vraiment là, l'ironie, elle dit, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob? Jacob, qui nous a donné ce puits, qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux, en voulant dire, ils ont travaillé fort pendant pour bâtir ce puits-là, puis toi, t'es ici, t'as absolument rien, t'as même pas un verre pour prendre, pour boire, puis tu t'es en train de me dire que toi, tu vas faire un... T'as une eau... Fait que dans le fond, vois-tu, c'est un petit peu ironique, là, c'est un petit peu comme... Ouais, OK. Je pense qu'il y a du doute ici, là. Moi, je suis certain qu'elle avait un petit sourire en coin, là, t'sais, bien gentil, elle voulait être polie, tout ça, avec Jésus, là, t'sais, mais de voir l'attitude de Jésus-Christ, hein, de voir comment il est patient, puis il est là, t'sais. Il passe par-dessus des barrières, ces barrières-là qui sont là, avec le fait que c'est une Samaritaine. Il se fout de ce que les gens peuvent bien penser et dire et comment socialement on repoussait les Samaritains et on avait de l'animosité avec eux autres. Il va passer par-dessus ça pour aller rejoindre le besoin de son cœur. Et ça, c'est le Seigneur Jésus. Ah, mon doux! Hein? Déjà. Alors, Jésus part par-dessus, même non seulement ça, il va passer par-dessus sa réputation, qu'est-ce qu'on va dire de lui, et il va même passer par-dessus les préjugés et l'ironie de cette femme, puis il va mettre côté de sa réputation parce qu'il voit le besoin du cœur de cette femme-là. C'est tout à fait beau. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Verset 16. Jésus répond. N'oublie pas, elle vient d'être un peu ironique, moqueuse un peu. Toi, tu vas faire ça? Alors Jésus répond, ben, appelle ton mari. Appelle ton mari, dit Jésus, reviens ici. Oups, la femme a dit, mais j'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Verset 18, car tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu es présentement n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Jésus lui révèle la vérité, mais l'a fait d'une manière tellement douce. Premièrement, il félicite sa franchise. Avez-vous remarqué ça? Il le reconnaît, ça. Il dit, t'es franche. Elle aurait pu se cacher. Parce que n'oublions pas, elle a honte. Elle a honte parce qu'on le sait, tu vas dire, ouais, comment c'est ça? Mais parce que ça nous dit qu'elle est arrivée pour aller chercher de l'eau à l'heure du midi. Les femmes ne faisaient pas ça. Les femmes allaient ensemble aller chercher de l'eau très tôt le matin avant que le soleil frappe très fort parce que c'est très chaud dans cette région du monde. Mais elle va en plein milieu, à midi, la pire heure de la journée, pour aller chercher de l'eau, en plein soleil, le soleil est très fort, tu n'allais pas chercher de l'eau, mais elle choisit d'aller à cette heure-là, parce qu'elle a honte, elle veut être seule, elle veut s'isoler, elle veut pas socialiser avec les autres. Elle a honte. Et malgré ça, elle est honnête. Et Jésus félicite cette honnêteté-là, cette franchise-là. Maintenant, cette femme a beaucoup souffert. Probablement veuve, c'est possible, qu'elle ait été divorcée 5 fois, c'est possible, ça arrivait dans le temps. D'ailleurs, les Juifs disaient qu'ils n'encourageaient pas plus que 3 mariages, il n'y avait pas de loi contre ça, donc c'est arrivé. On pouvait se divorcer très facilement à l'époque. Mais je pense que peut-être qu'elle a eu les deux. Je pense qu'elle a été veuve par moment, elle a connu ce qu'était le deuil, mais je crois aussi qu'elle était divorcée. Parce que premièrement, on l'a déjà dit l'autre jour, 30% des femmes en bas de 40 ans étaient veuves à l'époque. L'espérance de vie, c'était vraiment pas long. Et 40% des femmes qui étaient de 40 ans au-dessus étaient veuves. Donc ça, c'est beaucoup. Puis on les mariait jeunes à cette époque-là. Vous allez dire, bon sang, c'est pas mal jeune. On mariait les filles à 13 ans. Moi, je me rappelle de mes 2 filles. J'ai eu 2 filles et 1 garçon, là, puis je me rappelle de mes 2 filles à 13 ans. Mon ami, j'aurais jamais remarié ça. À pas d'allure. Pas d'aller. Puis eux autres même le diraient, là. Eux autres le diraient. T'sais, je critique pas mes enfants moi-même à 13 ans. Moi, en tout cas, à 13 ans, je faisais dur. Fait que, tu sais, mais on voulait les protéger. C'était la société de l'époque où on les protégeait, on voulait les garder, tout ça. Et on bâtissait. Et papa était pas loin, là. On bâtissait des maisons, des annexes et tout ça. C'était pas comme si t'en allais vivre à Chicago. C'était toutes des annexes qu'on bâtissait. Fait que dans le fond, tout le monde était à côté, puis tout ça. Fait que quand. C'était pas évident. Donc, on se mariait jeune, ça fait que ça, c'était une des explications pourquoi elle a passé à travers tout ça, dans le sens qu'elle a pu connaître plusieurs, peut-être être dans le deuil, puis des divorces. Puis, était sûrement divorcée aussi. Parce qu'à cette époque-là, on divorçait pour toutes sortes de niaiseries. Même, malheureusement, c'était pas les femmes qui demandaient le divorce, c'était les hommes. Alors, il y a bien des hommes qui abusaient. Il y avait toutes sortes de raisons stupides pour se divorcer. Par exemple, tu brûles les toasts, OK, je te divorce. Puis, t'es dans la rue, là. C'est épouvantable. Il y avait même un rabbin qui interprétait le verset de Lamentation dans l'Ancien Testament. Vous savez, il y a un verset dans l'Ancien Testament qu'on dit que Dieu haït le divorce. Dieu haït le divorce. Le rabbin a réussi à twister ça, puis lui, il a dit, bon, mais OK, ça marche, fait que si tu hais ta femme, renvoie-la. C'est comme ça qu'on traitait les femmes. Pas tout le monde. Il y avait bien des gens, parce qu'on voit un mouvement dans le Talmud, on voit dans la littérature juive, comme quoi qu'on encourage d'avoir des bons mariages et tout ça. C'était pas la foule qui était comme ça, mais il y avait des femmes qui vivaient ces expériences-là, et moi, je crois que cette femme samaritaine le vivait. Un autre rabbin, le rabbin Akiba, disait, tu peux divorcer, il donnait le droit, là, tu peux divorcer ta femme si t'en trouves un autre plus belle. C'est un rabbin. Imaginez, on enseignait ça dans les synagogues. Le gars, il est assis dans les synagogues, il s'en va pour étudier la Bible, il écoute ça, il écoute le rabbin. Ah, OK, ça marche. On met ça en pratique. Ça n'a pas d'allure. Il y a même la loi juive qui disait ceci. Il dit, une mauvaise femme, c'est comme la lèpre pour son mari. Il dit, comment y remédier? Ben, qu'il la répudie par le divorce et soit ainsi guéri de sa lèpre. Et ça, c'est dans la littérature juive. Là. Des rabbins qui ont écrit ça, là. C'est ça qui s'enseignait dans le temps. Alors, imaginez cette femme, comment elle pouvait se sentir. Et elle a connu ça, parce qu'elle a été divorcée. Elle l'a vécu. D'autres mariages, elle est très bien, mais elle l'a vécu. C'est ce genre de femme-là qui a fait l'objet de ce mépris-là au point qu'elle est rendue avec un sixième homme. Une autre raison qui expliquerait peut-être ces nombreux mariages et divorces, c'est qu'il est possible qu'elle n'avait pas eu d'enfant, qu'elle n'était pas capable d'avoir d'enfant. Parce que la loi juive, on découvre dans la littérature juive que si tu n'avais pas d'enfant dans 10 ans, tu pouvais divorcer ta femme. Alors là, elle se retrouvait avec un autre mari, puis lui aussi pouvait la divorcer après 10 ans. Donc, c'est possible, cette femme-là, ait aussi souffert de ce rejet-là et de pas pu avoir la joie, justement, d'avoir des enfants. Alors, voici une femme pleine de blessures. Mais Jésus, c'est la réponse. Jésus la voit, Jésus la compassion pour elle. Il passe au-dessus des barrières, passe au-dessus de tous les jugements, les préjugés, tout ça, et il voit son cœur. Il est la réponse. Il est seul à pouvoir étancher cette soif qu'elle a, la soif de son cœur. Parce que Jésus sait que le besoin de cette femme, c'est d'ordre spirituel. Et Jésus veut combler le vide de son cœur. Et Jésus répond avec douceur, parce qu'il va au-delà de la réputation. Il a vu une personne ici qui est en besoin, qui a besoin de guérison, qui avait besoin d'un cœur restauré, qui avait besoin d'être consolé, qui avait besoin de douceur. Alors Jésus montre beaucoup de tendresse et de douceur envers cette femme samaritaine. Il y a un autre passage, c'est avec une autre rencontre qu'on voit avec la femme qui est accusée d'adultère. Les chefs religieux, dans le chapitre 8, dans Jean 8, on lit, les chefs religieux viennent et placent au milieu de la foule une femme et dire à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Et le verset 5 dit ceci, « Moïse dans la loi. » Et là, c'est un piège, on le sait, c'est un piège. Ils veulent attraper Jésus, essayer de le coincer. Puis je vous dis, c'est tout un piège. C'est très savant comme piège. Regardez bien ceci, verset 5, « Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu? » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Si on peut juste placer Jésus dans un endroit où il est obligé de se mouiller et on le connaît pour une personne qui n'arrête pas de pardonner les gens et leurs fautes, donc il va vouloir pardonner cet adultère-là, mais en même temps, en citant la loi de Moïse, on est en train de placer à faire des compromis avec la loi, donc il va être condamnable, il est fini. Il va perdre la réputation, la crédibilité des gens parce qu'il a violé finalement la loi de Moïse. C'est intéressant, il dit pas la loi juive, il dit la loi de Moïse. Moïse est un grand homme chez les Juifs. Et ça, c'est sérieux parce qu'on parle des 5 premiers livres de la Bible, on parle de la loi, là, le Pentateuch. Alors ça, c'est vraiment le dilemme. Si Jésus met de côté la loi de Moïse, c'est fini au niveau de sa crédibilité, il perdrait la confiance des gens parce qu'il serait considéré comme une personne qui ne respecte pas la loi, puis là, il serait accusé devant les tribunaux. Mais de l'autre côté, s'il confirme la loi de Moïse, et qu'il adopte une position un peu à la dure, là, il plairait pas à la foule. Car la lapidation, à ce point-ci dans l'histoire, n'était plus vraiment pratiquée dans la vie courante. D'ailleurs, même dans le Nouveau Testament, tu n'en vois plus, c'est fini. Donc, une position dure, elle est à l'encontre de la compassion que Jésus a déjà montrée jusqu'ici, dans son ministère. Parce que Jésus était connu pour sa compassion. Surtout les gens affligés, il était réputé pour sa façon de pardonner. Alors, le piège est bien réfléchi. Parce qu'en plus d'avoir des problèmes auprès de la communauté juive, il aurait des problèmes avec l'Empire romain, parce qu'à ce point-ci, c'était l'Empire romain qui avait le pouvoir de condamner et à mort. Personne d'autre. Alors, la question piège, la question qui tue, c'est celle-ci. Tu vas-tu faire la parole de Dieu? Vas-tu suivre la parole de Dieu ou tu vas faire des compromis? Alors, rappelez-vous la définition qu'on a donnée de la douceur au début du message. C'est la puissance contrôlée. C'est la puissance et la force de caractère. C'est d'avoir de la colonne, mais c'est contrôlé. Rappelez-vous la définition que Swindoll a donnée sur la douceur, qui est la douceur de la Bible. Comment faut comprendre la douceur de la Bible? Il a dit, c'est cette qualité enviable comme le pouvoir de se maîtriser, c'est rester calme et en paix malgré une atmosphère tendue. Est-ce que l'atmosphère est tendue ici? Selon la réponse qu'il va donner juste là, son ministère peut finir juste là. Alors, est-ce qu'il a suivi la foule? Est-ce qu'il a ramassé une pierre? Non. Voici ce qu'il fait. Verset 7. Jésus dit, Jésus répond, et c'est brillant. Il dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. En d'autres mots, il n'a pas dit, prenez pas de pierre. Il n'a pas dit, elle n'est pas coupable. Non, il dit, elle est coupable. Lancez la roche. Mais juste avant, juste un critère. Que celui qui lance la roche soit sans péché, sa conscience soit correcte. C'est vraiment brillant. Jésus ne dit pas qu'elle ne doit pas être punie pour son péché, mais il dit, celui qui est sans péché, par exemple, qui lance la première roche. Voyez-vous, les témoins d'un crime, ça c'était la loi, les témoins d'un crime devaient être les premiers à jeter les pierres. Et tu ne devais pas avoir toi-même pris part au crime, c'est évident. C'était pour condamner des voleurs. On prend pour acquis que tu n'étais pas avec la gang en train de voler la banque. C'est même logique. D'accord? Là, tu as un problème. Voici le problème. La loi juive savait qu'on pouvait si facilement abuser de la benne capitale qu'on avait mis des balises assez sévères pour s'assurer qu'on n'en abuse pas, si bien que la condamnation à la peine capitale était rendue quasi impossible. Presque impossible. La loi juive l'avait rendue très, très difficile. Pour condamner quelqu'un à la peine capitale, ça prenait deux témoins qui avaient vu le crime. Donc, des témoins oculaires. Non seulement ça, lorsqu'ils sont en contre-interrogatoire, il fallait que les deux témoignages des deux témoins se concordent parfaitement, qu'il n'y ait même pas d'erreur. Absolument. Il fallait que ça soit parfait. D'ailleurs, on raconte une vieille histoire, une histoire ancienne d'une femme qui s'appelle Suzanne, chez les Juifs, une histoire juive, et cette femme était accusée par deux témoins d'avoir fait quelque chose d'inconvenant en dessous d'un arbre. Finalement, elle était acquittée parce qu'en contre-interrogatoire, les deux témoins ne pouvaient pas s'entendre sur la grosseur des feuilles de l'arbre. C'est juste pour vous montrer qu'à ce point-ci, avant d'arriver à la peine capitale, là, je peux te dire une affaire, là, c'était quasi impossible. C'était rendu très difficile d'appliquer la peine capitale à l'époque du Nouveau Testament. D'ailleurs, dans la littérature juive, qu'on appelle la Mishnah, il y a un commentaire dans la loi juive qui dit ceci, « Une cour qui exécute plus d'une personne aux 7 ans, c'est un abattoir. » Aux 7 ans. Donc, vous pouvez voir comment peine capitale, là, ça se faisait plus vraiment. Là. C'était très dur. Puis non seulement ça, la loi de Moïse exigeait qu'il y ait un procès, mais là, il n'y a même pas de procès. Il l'emmène juste là, tiens, lance la roche, fini. On l'a vu. Mais vous autres, les femmes, vous avez pensé à une question que les gars n'ont pas pensé pendant tout ici. Où est le gars? Hein? C'est vrai, les femmes, vous avez pensé à ça? Ben oui, c'est sûr. Où est le gars? Parce que si t'es là, t'es deux témoins, hein, parce que ça, c'était la loi juive qui exigeait que t'aies deux témoins. Maintenant, s'il y a deux témoins, puis ils ont dit, on l'a pris en flagrant délit, on l'a pincé en plein adultère, il me semble, si t'es témoin d'un acte adultère, ils ont vu le gars. Ça prend pas la tête de papillon pour savoir ça. Alors, voici-les. C'est pour ça que certains... Ouais, il y en a qui ont dit peut-être qu'ils sont partis à courir, ils couraient plus vite, ils sont sortis par la fenêtre et ils sont partis à courir. C'est possible. Mais ils l'ont vu quand même. Parce que c'est ça qu'ils ont dit. On l'a vu. On l'a pincé. C'est même possible, et certains pensent, que c'est un complot monté, ça, avec le gars. Il y en a qui pensent que c'est ça. C'est possible. Je dis pas que ça l'est, mais c'est possible. C'est fort possible, parce que sans ça, le gars serait là. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était très sévère, les deux passaient, les deux devaient passer au jugement. Les deux. Ça, c'était très sévère. Il n'y avait pas deux poids, deux mesures. Ça, c'était bien clair. Alors, verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Alors, les chefs religieux viennent pour humilier Jésus, mais ils repartent humiliés. Il y a deux genres de personnes qui sont ici, là, devant Jésus. Les chefs religieux qui pensent être au-dessus de leurs affaires, qui se justifient par leurs œuvres, et cette femme pécheresse qui est brisée puis humiliée. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il trouble le confortable et réconforte le troublé. Exactement ça. Verset 9 dit ceci. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Et verset 11 dit, « Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Jésus ne lui demande même pas si elle est coupable. Il continue en disant, « Moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Vois-tu, parce que Jésus, par sa déclaration, Jésus montre qu'il a le droit de pardonner au même titre que son père. Chez les Juifs, il y a des gens qui sont là, « Ah, moi, tu sais, j'ai des doutes sur la divinité de Jésus, etc. » Quand tu es juif, là, quand tu penses comme un juif, Jésus a fait des déclarations tellement fortes, juste ça, « Je te condamne pas, je te pardonne. Va, je te pardonne. » Alors, la seule personne qui était là, qui avait le droit... Oups, il n'y a plus personne en arrière. Oups, merci. La seule personne, dans le fond, qui était là, qui avait le droit de prendre la roche et de la lancer, c'était Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il ne l'a même pas fait. Il dit, « Moi, je te pardonne. » Jésus lui dit, « Va, il ne pêche plus. » Il pardonne. Ensuite, il sanctifie. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas dit, « Arrête de pécher, améliore ta vie, puis après ça, je ne te condamnerai pas. » Il a dit, « Non, je te pardonne, je ne te condamne pas. » Puis après ça, il dit, « Tiens, change ta vie. » Et ça, mes amis, c'est l'essence du christianisme. Où le Seigneur nous touche, le Seigneur, on se convertit, on vient au Seigneur dans l'état où on est, pécheur. Et c'est le Seigneur, on lui demande de nous sauver, de nous pardonner. Et après ça, là, on commence le travail de la sanctification. Parce qu'il nous a acceptés, on veut maintenant lui plaire. La réaction d'avoir reçu une telle miséricorde de la part de Jésus, d'avoir fait l'objet de telle grâce, va avoir l'effet de produire une vie de pureté et de sainteté par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est l'essence du christianisme. Jésus est en train de lui dire, « Ma sœur, je ne te condamne pas, car je serai... Parce que moi, là, c'est moi qui vais être condamné à ta place. Oui, des roches devraient être lancées, mais c'est moi qui vais les recevoir à ta place. » Cette rencontre entre Jésus et cette femme, c'est vraiment une belle illustration du caractère de Jésus-Christ, qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Voyez-vous, dans les textes prophétiques de l'Ancien Testament, déjà on parlait que le Messie qui allait venir, le Sauveur qui allait venir, viendrait dans ce calme, dans cette douceur. Là. Il ne viendrait pas comme un Messie militaire, comme celui qui allait élargir le royaume d'Israël par la force, mais au contraire, viendrait dans le calme. Ça a été même une pierre d'achoppement parce qu'on attendait un Messie militaire. Mais Jésus vient avec douceur. Il exerce son ministère puissant, mais avec douceur. Matthieu 12, par exemple, dit ceci. Passage ici dans Matthieu 12, une citation. C'est cette image, cette prophétie qui vient de l'Ancien Testament, que le Messie viendrait dans la douceur. Ça dit, il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Il ne cassera pas le roseau qui est brisé. Imaginez comment c'est fragile. Tu passes à côté d'un roseau qui est brisé, tu vas le faire tomber. Mais Jésus va venir avec tellement de douceur, et c'est ça l'image ici du ministère que Jésus était pour avoir. Il va avoir un ministère tellement qui va venir avec puissance, mais avec douceur. Il ne fera même pas tomber le roseau brisé. Alors déjà, des centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ, on prédisait que Jésus allait venir, ce serviteur, ce Messie, viendrait et combinerait la compassion et la justice à la perfection. Sa justice est parfaite et sa compassion est parfaite. Et ce qu'il est dit, c'est qu'il va l'emporter sur le mal, il va satisfaire la justice, mais il va le faire de sorte qu'il va restaurer les cœurs. En même temps, on nous dit que Jésus est si sensible, si tendre, si doux, que le cœur brisé, le cœur blessé, comme le roseau ici qui est cassé, Jésus est si sensible, si tendre, si doux, que le cœur brisé, le cœur blessé, le cœur fragile qui ne tient qu'à un fil, vacillante, l'âme vacillante, prête à s'éteindre. Même cette âme fragile placée dans les mains de Jésus ne sera pas abîmée, mais va guérir. Amen. Ça, c'est le ministère de Jésus auprès de chacun d'entre nous. Voilà le caractère du Seigneur. Graham Kendrick a composé un court chant, un chant très court qui s'appelle « Seigneur, par ta douceur ». Seigneur, par ta douceur, tu dissipes ma rancœur. Vous savez la colère qu'on a parfois dans le cœur, l'amertume qu'on peut avoir. Le Seigneur arrive avec sa main surnaturelle, place sa main sur notre cœur qui est brisé, qui est parfois plein de colère. Et le Seigneur apaise par sa douceur cette rancœur qui est là. Seigneur, par ta douceur, tu dissipes ma rancœur. Seigneur, tu reçois ton amour. Je reçois ton amour. Seigneur, par ta beauté, tu rends ma dignité. Alors, qu'est-ce que ça produit en nous? Qu'est-ce que la douceur va produire en nous? Bien, premièrement, la douceur va affecter ton attitude. Ça va avoir un impact sur notre attitude, des incidences sur nous autres. Il va arriver des moments où ça ira pas bien. Et c'est surtout là, finalement, que notre douceur est vraiment mise au défi. Pas vrai? Quand ça va tout bien, là, t'as pas de misère à être doux. Moi, j'ai pas de misère à être doux quand je suis sur le bord de la mer à Cancun, puis il fait 33 degrés, puis je rentre en mer. Et je suis tellement doux. Je suis un modèle de douceur. Prends des notes. Mais moi, dis, quand le quotidien recommence, tu reviens, puis tout ça, puis là, tu reçois un téléphone du professeur à l'école, le professeur de ton garçon, puis il t'appelle, on a besoin de vous rencontrer, M. Joseph, votre fils a fait des bêtises aujourd'hui, pouvez-vous venir nous rencontrer cette semaine? Et là, mon ami, la douceur, là, c'est comme, là, puis t'attends que ton fils arrive, puis, c'est puis, c'est là, t'as besoin de la puissance du Saint-Esprit qui produit en toi un cœur qui est doux. Ouf, des fois, honnêtement, les gars, là, je parle aux gars, les gars. Pourquoi? Est-ce qu'on a plus de misère, nous autres, les gars, avec la douceur, avec nos femmes? Je ne sais pas, en tout cas. Statistiquement, il faudrait faire une analyse, un sondage. Mais moi, j'aimerais vous encourager, les gars, là, de travailler sur la douceur. J'entends tellement de téléphones des gens qui me rencontrent et tout ça, qui ont des problèmes de couple. C'est quoi? C'est l'agressivité dans la maison. Même, là, c'est entre les deux périodes, là, je parlais à quelques personnes, puis c'est ça. C'est l'agressivité, c'est la colère, c'est on hausse le ton et tout ça, et on manque de douceur. Il faut travailler là-dessus. Et je sais qu'il y a des femmes ici, que c'est un défi pour vous autres aussi. Ben oui, c'est sûr. On est tous pécheurs, on a la misère avec ça, mais il faut travailler. Il faut travailler là-dessus, sur la douceur. Alors, on a besoin vraiment d'arriver, d'aller au pied du Seigneur, puis de vraiment demander au Seigneur de nous aider. Ça peut vouloir dire, et très souvent c'est ça, ça peut vouloir dire qu'il faut passer par-dessus certaines offenses qui nous sont faites et aller apporter notre amertume au pied du Seigneur. Ça peut vouloir dire ça. Parce que le Saint-Esprit veut produire ce caractère-là chez nous autres. Il veut produire des maris aussi fins que si Jésus était marié à ta femme. Et la même chose. Quelque chose, hein? C'est ça que le Seigneur veut faire avec nous autres. Puis, il est capable. Une puissance surnaturelle. Tranquillement, ça ne sera pas du jour au lendemain, évidemment. Mais il veut faire cette œuvre-là. Alors, la douceur, c'est l'attitude qui m'incite à chercher les intérêts des autres. La douceur va me rendre enseignable aussi. Ça l'affecte, mon attitude. Je vais être enseignant, je vais être humble. On veut rechercher ça. Alors, non seulement la douceur va affecter ton attitude, mais ça va affecter aussi notre comportement. La douceur va m'inciter à porter les fardeaux les uns des autres, les consoler, les encourager, à prendre soin des autres. On va chercher à agir avec compassion avec les autres et non pas les condamner. On a vu ça avec Jésus, autant avec l'adultère qu'avec la femme samaritaine. Troisièmement, la douceur va influencer ta façon de parler. Ça va avoir un impact sur tes conversations. Colossiens chapitre 4 dit ceci. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vois-tu? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Si on est en train de dire que lorsque tu es en train de parler, construis. Détruis pas, construis. Ça fait quoi le sel? Ça soit accompagné de sel, assaisonné de sel. Ça fait quoi le sel? Ça préserve, ça fait fondre la glace. Tu sais, dans un contexte tendu, là, c'est que toi, tu vas être réputé de faire descendre l'atmosphère, apaiser l'atmosphère. C'est ça que ça fait, le sel. Ça préserve. Ça fait ressortir le goût. Quand on va finir une conversation, tu vas sortir de notre conversation, tu vas te sentir encore mieux. Je vais t'avoir édifié. Puis c'est ça que ça veut dire, édifié. Tu sais, on a le mot édifice, on construit, on bâtit. Donc, cherchons à parler avec grâce, soyons édifiants. Et chaque fois qu'on ouvre la bouche, que ce soit à la maison, au travail ou même à l'église, chaque fois, on est confronté à un choix. On a une décision à prendre chaque fois. Avant de parler, on doit se poser la question. Est-ce que mes paroles vont aider, vont construire ou vont blesser? Et parfois, il y a des choses difficiles à dire, absolument. Jésus les a dit. Jésus a dit des choses difficiles, mais il le fait avec un esprit tellement de douceur. C'est ce qu'on voit même dans Galates 6, n'est-ce pas? Ça dit, si tu vois un frère commettre une faute, va le reprendre avec un esprit de douceur. Fait que la douceur doit être partout. Je vais toujours chercher à construire et pas condamner. Alors, avant de parler, on se pose la question, est-ce que mes paroles vont construire, vont aider ou vont blesser? Le fruit de la douceur va se voir dans ton attitude, ton comportement, ta façon de parler avec les autres, dans tes conversations. Et surtout quand ça va pas bien. C'est particulièrement à ces moments-là que j'ai besoin de répondre avec humilité, en me servant les paroles pleines de grâce puis de douceur. C'est comme ça que Paul agissait avec les chrétiens, même les chrétiens difficiles. Un Thessalonicien dit ceci, ça dit, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Est-ce qu'il fait des compromis? Il n'a pas fait de compromis, Paul. C'est un homme qui marchait dans la vérité. Mais quand il communiquait la vérité, il le faisait avec grâce. Alors, on veut offrir la grâce aux autres car on a reçu la grâce de Dieu. La douceur, c'est la puissance et la volonté forte placée sous le contrôle du Saint-Esprit. Les personnes douces ont été transformées par le message étonnant de la grâce de Dieu. Et veulent maintenant à leur tour montrer de la grâce, exprimer de la grâce aux autres. C'est pour ça que nous avons dans Philippiens 4 cette exhortation qui dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que c'est ta réputation, ça? C'est la réputation que tu veux travailler, sur laquelle tu veux travailler. La fin de l'année arrive, tu veux demander au Seigneur, Seigneur, en 2015, moi je veux développer une réputation dans mon bureau, dans mon milieu de travail, dans mon foyer avec mes enfants. Je veux avoir la réputation d'être une personne, une femme, un homme reconnu pour ma douceur. Amen. Alors, ensemble, encourageons-nous, que notre douceur soit connue de tous. Eh bien, Seigneur notre Dieu, comme on veut te remercier parce que toi, tu as agi avec douceur envers chacun, avec chacun d'entre nous. On peut être si dur parfois, si impatient, si colérique pour certains d'entre nous. Mais Seigneur, on te prie, on te remercie, premièrement, que tu n'as pas agi comme ça avec nous. Tu as été patient. Et Seigneur, moi je méritais de recevoir la roche. Je méritais d'être lapidé par Dieu tant que j'ai blasphémé, je l'ai traité comme un rien. Mais Seigneur, t'as envoyé ton Fils sur la croix, prendre la roche à ma place, recevoir cette roche que moi je devais recevoir, afin que tu puisses me justifier en Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, on veut sortir d'ici puis être connu par tous pour notre douceur les uns envers les autres. Au nom de Jésus. Amen.